Séance consacrée au rire et à la littérature dans le cadre du printemps des SHS, organisée ici à la Maison européenne des sciences humaines et sociales. Nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Alastair Duncan, qui nous vient de l'université de Stirling au Royaume-Uni, et Jean-Marc Moura, qui est professeur de littérature à l'université de Paris-Ouest. Nous vous proposons ce soir de scander les deux interventions de nos deux professeurs par quelques lectures d'extraits du Gargantua de Rabelais. Voilà, donc je commencerai par une toute petite lecture. Je suis moi-même maître de conférence à l'université de Lille 3. Nous écouterons ensuite Monsieur Duncan sur Bergson, puis Rabelais nous proposera un deuxième petit intermède avant d'entendre Monsieur Moura, et nous finirons par quelques lignes encore de Rabelais, de façon à laisser à la fin de ces trois interventions une large place à la discussion. Vous connaissez peut-être l'ouverture du premier, du Gargantua de Rabelais. Cet appel au lecteur à un rire constant et joyeux. Amis lecteurs qui se livrent, lisez, dépouillez-vous de toute affection, et le lisant, ne vous scandalisez. Il ne contient mal ni affection. Vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez, sinon en cas de rire. Autre argument ne peut mon cœur élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. J'aimerais juste vous raconter brièvement l'histoire de la naissance du petit Gargantua. Grand Gousier était bon raillard en son temps, aimant à boire net, autant qu'homme qui, pour l'or, fut au monde et mangeait volontiers salé. À cette fin, avait ordinairement bonne munition de jambon de Mayence et de Bayonne, force langue de bœuf fumé, abondance d'andouilles en la saison et bœuf salé à la moutarde, renfort de boutargue et provision de saucisses. En son âge viril, il épousa Gargamel, fille du roi des Parpaillots, belle gouge et de bonne trogne, et faisait eux deux souvent ensemble la bête à deux dos, joyeusement se frottant le lard, tant qu'elle engrossa d'un beau fils et le porta jusqu'au 11e mois. Après un banquet fort arrosé, Gargamel commença à se porter mal du bas, dont Grand Gousier se leva dessus l'herbe et la réconfortait honnêtement. « Courage de brebis, disait-il, débarrassez-vous de celui-ci et bientôt en faisons un autre. »« Ah, dit-elle, tant vous parlez à votre aise, vous autres hommes. Bien, de par Dieu, je m'efforcerai puisqu'il vous plaît, mais plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. »« Quoi ? » dit Grand Gousier. « Ah, dit-elle, que vous êtes bon homme. Vous l'entendez bien. »« Mon membre, dit-il, sang de l'écabre. Si bon vous semble, faites apporter un couteau. Ah, dit-elle, à Dieu ne plaise, je ne le dis de bon cœur, et pour ma parole, n'en faites ni plus ni moins. Mais j'aurai beaucoup à faire aujourd'hui si Dieu ne m'aide, et tout ça à cause de votre membre. Courage, courage, dit-il, ne vous souciez au reste et laissez faire aux quatre bœufs de devant. Peu de temps après, elle commença à soupirer, lamenter et crier. Soudain vinrent à ta sage femme de tous côtés, et la tâtant par le bas, trouvèrent quelques pelauderies assez de mauvais goût et pensaient que ce fut l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait à la mollification du droit intestin, lequel vous appelez le boyau culier, par trop avoir mangé de tripes. Dont une horde vieille de la compagnie, laquelle avait réputation d'être grande médecin, et là était venue de Brisepaille, d'auprès Saint-Genoux, devant 60 ans, lui fit un restrinctif si horrible que tous ses laris tant furent opilés et resserrés qu'à grand-peine, avec les dents, vous les eussiez élargis, qui est chose bien horrible à penser. Par cet inconvénient, furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice, par lesquels sursauta l'enfant et entra en la veine creuse, et gravissant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, où la dite veine se part en deux, prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille gauche. Soudain qu'il fut né, ne cria comme les autres enfants « Miss, Miss !» mais à haute voix s'écriait « À boire, à boire, à boire !» comme invitant tout le monde à boire, si bien qu'il fut entendu de tout le pays, de Beus et de Bibarois. Je vous laisse la parole.
Ah bon. Je serai beaucoup moins drôle. La conférence que je vais vous donner est en partie sur Bergson. Le sujet qui m'intéresse, c'est la ou les significations du rire, surtout dans la littérature du XXe siècle. Et ma thèse, c'est que au XXe siècle, la signification du rire telle que l'a définie Bergson n'est pas celle qui a dominé. Le rire a pris d'autres significations. Je n'aurai pas la possibilité de montrer toutes les directions que le rire a prises au XXe siècle. Par exemple, je laisserai de côté le rire rabelaisien et sa signification sociale. Rire qui a eu son moment de gloire dans les années 70. Un livre très important d'un théoricien russe, Bakhtine, a été traduit et publié en France en 1970 pour la première fois. Et par la suite, on a vu un peu par coïncidence, mais aussi sur l'exemple de Bakhtine, on a vu les spectacles du Théâtre du Soleil, où tout l'aspect du carnaval dont Bakhtine avait fait ressortir dans l'œuvre de Rabelais a été monté sur scène. Et je ne parlais pas non plus du rire selon Freud, le rire psychologique, qui a aussi eu une grande importance au XXe siècle. C'est le rire par lequel l'homme se protège dans des circonstances extrêmes. Et donc c'est un rire qui a été à l'honneur, par exemple, dans l'anthologie de l'humour noir de Breton. Et c'est un rire qu'on retrouve un peu à travers tout le siècle dans les romans de guerre, dans Le Feu de Barbusse, dans les romans de Sandrard, dans Céline, dans Claude Simon aussi. Donc ce rire qui protège la personne dans les moments extrêmes, ce rire-là, je n'en parlerai pas. Je vais plutôt vous parler d'abord de Bergson, et de faire quelques commentaires sur son livre « Le rire ». Ensuite, je mentionnerai l'évolution du rire qui s'est fait, me semble-t-il, au XXe siècle. Et puis, je parlais d'une signification du rire, très schématiquement, et son évolution à partir du romantisme au post-romantisme. Mais ne craignez rien, au bout de 3 heures, il y aura une pause café. Je commence donc avec Bergson et son livre « Le rire ». Je commence avec Bergson parce que le livre est paru au début du XXe siècle, en 1902, parce que Bergson a longtemps dominé l'intérêt pour la discussion sur le rire en France, et ensuite parce que lui aussi s'intéressait, c'était un peu par ce biais que moi aussi je m'y intéresse, il s'intéressait à la signification du rire. Son livre portait comme sous-titre « La signification du comique ». Quelle est donc, selon Bergson, la signification du comique ? Eh bien, pour lui, le rire est un phénomène social. On rit surtout avec autrui, en complicité avec autrui, et on rit aux dépens d'un tiers. Pour Bergson, le rire est une arme légitime aux mains de la société. Si on rit de certaines personnes, c'est pour leur bien et pour le bien de la société entière. Vous vous rappelez peut-être son exemple clé. Un homme qui court dans la rue, trébuche et tombe, les passants rient. Donc c'est un peu le coup de la peau de banane. Mais ils n'en font pas ce mot-là, mais c'est un peu ça. L'homme court, il trébuche, il tombe. Alors, qu'est-ce qui explique ce rire ? selon Bergson, c'est que l'homme n'a pas prêté suffisamment d'attention à ce qu'il faisait. Ça, c'est un peu... c'est un truisme, ça. Mais en plus, par manque, donc il dit par manque de souplesse, par distraction ou obstination du corps, par un effet de raideur ou de vitesse acquise, les muscles ont continué d'accomplir le même mouvement quand les circonstances demandaient autre chose. C'est pourquoi l'homme est tombé et c'est de quoi les passants rient. À partir de là, Bergson généralise sa pensée et explique le rire en ce qui concerne l'esprit aussi bien que le corps. Et c'est là la première citation sur la feuille. Si vous n'avez pas de feuille, on peut peut-être vous la faire passer. Ce que la société exige de nous, c'est une attention constamment en éveil qui discerne les contours de la situation présente, et c'est aussi une certaine élasticité du corps et de l'esprit qui nous mettent à même de nous y adapter. En un mot, si l'on trace un cercle autour des actions et dispositions qui compromettent la vie individuelle ou sociale et qui se châtient elles-mêmes par leurs conséquences naturelles, il reste une certaine raideur du corps, de l'esprit et du caractère que la société voudrait encore éliminer pour obtenir de ses membres la plus grande élasticité et la plus haute sociabilité possible. Cette raideur est le comique et le rire en est le châtiment. Donc, ce qu'il y a de risible, c'est une certaine raideur mécanique, là où on voudrait trouver la souplesse et attentive et la vivante flexibilité d'une personne. Bon, quelques remarques sur cette appréciation du rire. D'abord, c'est une version moderne au début du XXe siècle, c'est une version moderne d'un argument qui vient de loin. C'est un argument moderne en ce qu'elle ne peut se comprendre que dans le contexte de la philosophie de Bergson, philosophie de la liberté. Bergson s'opposait violemment au déterminisme positiviste. La vie à travers le temps, pour lui, n'était nullement un enchaînement de causes et d'effets, mais un jaillissement toujours nouveau. D'où l'interprétation du rire comme un encouragement à exercer la liberté, souplesse et liberté. Mais, d'autre part, c'est un argument qui vient de loin. D'abord, l'idée que le rire vient d'une humiliation remonte au moins jusqu'au philosophe Hobbes. Baudelaire, lui aussi, en était convaincu. Et Baudelaire utilise le même exemple, l'homme qui trébuche et tombe dans la rue, pour prouver la nature déchue de l'homme. Je cite, « Est-il un phénomène plus déplorable que la faiblesse se réjouissant de la faiblesse ?» se demande Baudelaire. Et il voit dans le comique un des plus purs signes sataniques de l'homme. Baudelaire hérite en cela d'une longue tradition de méfiance à l'égard du rire, surtout de la part de l'Église. Il cite aussi, Baudelaire cite Bossuet, « Le sage ne rit qu'en tremblant ». Donc, pour Bossuet, pour Hobbes, pour Baudelaire, le rire a des connotations négatives. Bergson, en revanche, attribue une valeur positive au rire. Mais là encore, son argument appartient à une tradition, car son argument constitue l'adaptation d'une défense traditionnelle de la comédie, défense érigée en partie contre la méfiance de l'Église. Je cite, ma deuxième citation vient de Molière, qui défend Tartuffe en disant « Sire, le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que, dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. » Alors, là, donc, c'est la défense traditionnelle de la comédie. Ridendo castigare mores, corriger les mœurs par le rire. Donc, il y a chez Bergson, comme chez Molière, la même configuration, l'individu face à la société, et le même genre de signification, le rire sert à corriger l'individu. Mais là, il n'y a rien de surprenant, que l'argument de Bergson soit proche de celui de Molière. Bergson, comme tout le public de son temps, est imprégné de Molière. La plus grande partie des citations et des références dans son livre viennent des pièces de Molière. Mais il y a pourtant une différence importante entre Molière et Bergson, dont Bergson a pleinement conscience. Molière parle de corriger les vices de mon siècle, c'est-à-dire qu'il se place sur le plan de la morale. Bergson ne se place pas à ce niveau-là. Pour lui, on peut être parfaitement honnête et pourtant avoir besoin d'une correction, de la correction du rire. Et l'exemple qui le prouve, c'est ce qu'il dit d'Alceste. Et je passe à mon troisième citation. C'est Bergson qui parle. Le caractère d'Alceste est celui d'un parfait honnête homme, mais il est insociable et par là même comique. Un vice souple serait moins facile à ridiculiser qu'une vertu inflexible. C'est la raideur qui est suspecte à la société. C'est donc la raideur d'Alceste qui nous fait rire, quoique cette raideur soit ici honnêteté. Quiconque s'isole s'expose au ridicule, parce que le comique est fait en grande partie de cet isolement même. Ainsi s'explique que le comique soit si souvent relatif aux mœurs, aux idées, tranchant le mot, aux préjugés d'une société. Voilà donc esquissé dans ce paragraphe toute une autre signification du rire. Le rire qui ne servirait pas la flexibilité, la liberté, mais justement à écraser, à rendre l'individu conforme aux préjugés de la société. Et Bergson parle du bizutage, par exemple, là où on voit qu'il s'agit d'imposer les préjugés d'un petit groupe et non pas de créer la flexibilité de la liberté. Donc tout ceci va à l'encontre de l'argument général de Bergson. Comment est-ce qu'il s'en sort? Eh bien, c'est un homme de la Troisième République, imbu de cette confiance dans l'avenir et le progrès, l'optimisme de son époque. Et voyez donc le paragraphe suivant. Toutefois, il faut bien reconnaître, à l'honneur de l'humanité, que l'idéal social et l'idéal moral ne diffèrent pas essentiellement. Nous pouvons donc admettre qu'en règle générale, ce sont bien les défauts d'autrui qui nous font rire, quitte à s'ajouter, il est vrai, que ces défauts nous font rire en raison de leur insociabilité plutôt que de leur... Bergson a quand même fini la phrase. leur immoralité. Bon. Alors, quelle est la réponse de Bergson? C'est qu'il admet la différence et la difficulté entre immoralité et sociabilité. Il admet la différence et la difficulté, mais il concilie, il fait l'amalgame, presque on peut dire, entre immoralité et insociabilité, en disant non, c'est bien, on rit à la fois de l'immoralité et de l'insociabilité, mais toujours donc à corriger dans un sens positif. Eh bien, voici pour le moment pour Bergson, donc excusez-moi de passer si vite, donc je passe donc à mon deuxième point, c'est qu'au courant du XXe siècle, le rire, les significations du rire ne sont pas pour la plupart, ne correspondent pas à ce que Bergson a avancé. Et ça, c'est en partie, il me semble, parce qu'il y a eu des évolutions au XXe siècle qui sont allées dans un sens contraire. Évolution dans le statut du rire, évolution dans la société. À la fin du XIXe siècle, le rire avait son espace réservé et mineur dans la littérature, aussi bien que dans la société d'ailleurs. Le sérieux, la tragédie, tenaient le haut du pavé, le comique, la comédie, coulaient dans le caniveau, si j'ose dire. Malgré l'exemple de Diderot, de Diderot et la dénonciation de Hugo dans la préface à Cromwell, les genres restaient largement séparés, au moins dans l'appréciation du public cultivé. Bergson fournit l'exemple. Toute une partie de son argument se construit sur la base d'un contraste entre les effets propres à la tragédie et ceux typiques de la comédie. Par contre, le XXe siècle a vu l'interpénétration progressive du rire et du sérieux. Dans la vie sociale, ce phénomène a certainement trait avec la démocratisation de la société, l'invention de nouveaux médias, l'accent mis sur l'informel. Le comique envahit l'espace public et l'espace du sérieux. Coluche, candidat à la présidence. Ou, pour donner un autre exemple qui date un peu maintenant, Jemal, qui danse sur le plateau du Vivement Dimanche avec Ségolène Royal, candidate à la présidence. Dans la littérature, la chose, cette interpénétration du rire et du sérieux a été la plus patente là où les prescriptions, les interdictions restaient les plus strictes, au théâtre. Pensez au spectacle, aux pièces de Giraudoux, d'Anouilh, de Sartre, d'Ionesco, de Beckett, de Coltès. Le rire et le pathétique sont inséparables. Font plus ou moins bon ménage, dont chacun à sa façon. Alors, au XXe siècle, le rire a pris du galon. Mais c'est un rire qui a d'autres significations que celles qu'a proposé Bergson. Je passe donc à mon seul exemple. C'est le rire que j'appelle romantique ou post-romantique. Donc, et je vais vous tracer très schématiquement le développement de ce rire. Qu'est-ce que cela veut dire, rire romantique ou post-romantique ? C'est un rire, je dirais, provoqué encore une fois par la confrontation entre société et individu, mais qui émerge peu à peu dans le courant de l'histoire. Je commence avec Rousseau, et plus particulièrement avec une interprétation du misanthrope tout autre que celle défendue par Bergson. Vous vous rappelez, pour Bergson, on rit légitimement d'Alceste car sa rigidité est insociable. Rousseau voit les choses très différemment. Je passe à ma quatrième citation. Qu'est-ce donc que le misanthrope de Molière ? Un homme de bien qui déteste les mœurs de son siècle et la méchanceté de ses contemporains, qui, précisément parce qu'il aime ses semblables, et en eux les maux qu'ils se font réciproquement et les vices dont ses mœurs sont l'ouvrage. Ce n'est donc pas des hommes qu'il est l'ennemi, mais de la méchanceté des uns et du support de cette méchanceté trouvée chez les autres. S'il n'y avait ni fripon ni flatteur, il aimerait tout le monde. Rousseau, lettre à D'Alembert. Alors, pour Rousseau, Alceste devient le héros méconnu de la pièce. Le misanthrope devient philanthrope. Ami de l'humanité entière, il ne déteste que les vices qui la défigurent. Trahi et abandonné par les femmes, déçu et solitaire, victime de l'hypocrisie et des complets de ses congénères, il n'a d'autre choix que de se retirer du monde, comme il le fait à la fin de la pièce. Toute la sympathie de Rousseau va à l'individu. C'est la société qui est sur la sellette. Ce point de vue a été promis à partir de René de Chateaubriand d'un bel avenir. Toutes les belles âmes meurtries de l'époque romantique sont confrontées à une société mesquine, conventionnelle, égoïste, indifférente à leurs souffrances. Passons très vite, un exemple un peu attardé, mais assez typique. L'albatros de Baudelaire. Vous vous souvenez de l'image, l'albatros plane superbement dans les airs, les matelots l'attrapent. Je passe à la citation. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mine en boitant l'infirme qui volait. Alors, voici le sort réservé aux êtres exceptionnels. On les tourmente, on se moque d'eux en les imitant. L'albatros est insociable, il est en proie au rire de la foule. Voilà, situation typique. Mais, lisons la strophe qui suit. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Je vois que les ailes sont devenues au singulier, là. Bon. Il y a quelques coquilles, mais vous allez les corriger vous-même. Voilà, il est vrai que l'albatros sombre, il est l'exilé permanent, mais tant qu'il planera dans les airs, lui aussi rit, il est seri de ceux qui voudraient le descendre. C'est cette configuration-là qui, à mon sens, est typique du post-romantisme. D'une part, le héros et l'héroïne, parfois naïf, dérisoire même, mais sensible, souffrant, conscient de ce que les autres ignorent, et de l'autre, la société ambiante, toujours rigide, murée dans ses habitudes, attachée à des valeurs fausses, platement matérialistes ou rationalistes, et dont on se moque. C'est une lignée qui commence véritablement avec Madame Bovary, qui est peut-être le chef-d'œuvre du rire post-romantique, parce qu'on rit des deux côtés. On rit des prétentions romantiques du personnage et de la société mesquine qui l'entoure et qui la condamne. Mais le XXe siècle a été fécond, surtout en romans de ce genre. Personnage aliéné de la société, souffrant d'ennui, sombrant, mais voyant plus juste et plus loin que la société dont l'auteur brosse un portrait satirique. Roquentin, le solitaire, et d'autre part la bourgeoisie suffisante de Bouville, Meursault et les inconscients et les hypocrites d'Alger, Caligula et les sénateurs de Rome, on dirait, en prenant la même métaphore, que c'est Caligula et les sénateurs, c'est l'albatros qui prend sa revanche sur les matelots. Anne de Barède ou maint autre personnage de Marguerite Duras face au rituel de la bonne société. L'avatar le plus récent, les romans de Houellebecq. Tous les personnages de Houellebecq sont des bouffons, des rieurs, des moqueurs, mais des bouffons qui souffrent parce qu'ils ont conscience de vivre dans un monde déchu. Ils ont la nostalgie des valeurs à jamais perdues, amour, bonté, fidélité, tendresse, bonheur, le sens du sacré. La conception du rire de Houellebecq est héritée de Baudelaire. La référence est implicite. Je vous donne deux citations de « La possibilité du Nil » de Houellebecq à la fin. Et la référence à Baudelaire est implicite dans la deuxième citation. « En quelques minutes, je passais en revue l'ensemble de ma carrière, cinématographique pour tout. Racisme, pédophilie, cannibalisme, parricide, actes de torture et de barbarie. En moins d'une décennie, j'avais écrémé la quasi-totalité des créneaux porteurs. » Il était quand même curieux, me dis-je une fois de plus, que l'alliance de la méchanceté et du rire ait été considérée comme si novatrice par les milieux du cinéma, parce que c'est un comédien qui fait de la comédie, ce personnage. Il ne devait pas souvent lire Baudelaire dans la profession. Donc, même conception que chez Baudelaire. D'une part, chez Houellebecq, la société fustigée pour son inconscience, sa bêtise, ses vaines tentatives d'échapper à son destin d'homme. D'autre part, le héros, par exemple, dans La possibilité du Nil, lui-même un naïf, mais supérieur par sa capacité à souffrir qui lui envie ses descendants néo-humains. Pour résumer, Houellebecq, un écrivain profondément romantique et religieux, un écrivain qui, malgré les apparences à horreur de la chair, à moins que, poseur et cynique accompli, Welbeck se moque de nous et exploite la sexualité à des fins purement commerciaux. Ah oui, le rire a des significations multiples. Mais je remarque que j'ai à peu près dépassé les 20 minutes et le 20e siècle, alors je m'arrête.
Merci beaucoup. Sans transition, je passe de la chair au cul, puisque je vais vous raconter l'histoire d'une merveilleuse invention du petit Gargantua, avant de passer la parole à Jean-Marc Mourat. Sur la fin de la cinquième année de Gargantua, Grand Cousia rendit visite à son fils. Là fut réjoui comme un tel père pouvait être, voyant ainsi un tel enfant, et, le baisant et accolant, l'interrogeait de petits propos puérils en diverses sortes. Ébu d'autant avec lui et ses gouvernantes, et qu'elle, par grand soin, demandait, entre autres cas, si elle l'avait tenu blanc et net. À ce, Gargantua fit réponse qu'il y avait donné tel ordre quand tout le pays n'était garçon plus net que lui. « Comment cela ?» dit Grand Cousier. « J'ai, répondu Gargantua, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le cul le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fut vu. »« Et quel est-il ? » dit Grand Cousier. « Comme vous le raconterez, dit Gargantua, prestement. Je me torchais une fois d'un cache-nez de velours d'une demoiselle et le trouvais bon car la mollesse de sa soie me causait au fondement une volupté bien grande. Une autre fois me torchais le cul d'un chaperon, une autre fois d'un cache-cou, une autre fois des oreillettes de satin cramoisi, mais la dorure d'un tas de sphères de merde qui y étaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine arde le boyau culier de l'orfèvre qui les fit et de la demoiselle qui les portait. Ce mal passa, me torchant d'un bonnet de page, bien emplumé à la Suisse. Puis, fiantant derrière un buisson, trouvai un chat. Dit celui, me torchait le cul, mais ses griffes m'exulcèrent tout le périnée. De ce, me guéris au lendemain, me torchant des gants de ma mère, bien parfumés de maujoin. Puis, me torchait de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de rose, de feuilles de courle, de choux, de bêtes, de pampre, de guimauve, de verbasque, qui est escarlate de cul, de laitue et de feuilles d'épinards. Le tout me fit grand bien à ma jambe. Je me torchais le cul de mercurial, de persiguir, d'ortie, de consolde, mais j'en eus la caque-sangue de lombard, dont fut guéri, me torchant de ma braguette. Je me torchais de foin, de paille, de boduf, de bourre, de laine, de papier, mais toujours laisse aux couillons et morches, qui sont hors cul, de papier torche. « Quoi ?» dit Grand Cousier, « mon petit couillon, as-tu pris au pot, vu que tu rimes déjà ?» « Oui, da, répondit Gargantua, mon roi, je rime tant et plus. Et en rimant, souvent, je m'en rime. Écoutez que dit notre retrait au fianteur. Chiard, foirard, pétard, brenousse, ton lard chapard sépare sur nous. Or douce, mer douce, esgousse, le feu de Saint-Antoine tard. Si tous tes trousses esclousses, tu ne torches avant ton départ. En voulez-vous davantage ? Oui, da, répondit Grand Cousier. Ah donc, dit Gargantua. Rondeau. En chiant l'autre hier senti, la gabelle qu'à mon cul doit. L'odeur fut autre que cuidoie, j'en fus du tout empuanti. Oh, si quelque consenti m'amener une qu'à ton doué en chiant. Car je lui eusse assez menti son trou d'urine à mon lourdois. Cependant eut avec ses doigts mon trou de merde garanti en chiant. Or, dites maintenant que je n'y sais rien, par la merde, je les ai fait mis, mais les voyant récités à Dame Grand que voyez-ci, les ai retenus en la gibecière de ma mémoire. Retournons, dit Grand Cousier, à notre propos. Quel, dit Gargantua, chier ? Non, dit Grand Cousier, mais torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer un bussard de vin breton si je vous fais quino en ce propos ? Oui, vraiment, dit Grand Cousier. Il n'est, dit Gargantua, point besoin, torcher cul, sinon qu'il y ait ordure. Ordure ni peut-être si on a chié, chié donc nous faut avant que le cul torché. Oh, dit Grand Cousier, que tu as bon sens, petit garçonnet. Ces premiers jours, je te ferai passer docteur en gaie science, par Dieu, car tu as de raison plus que d'âge. Or, poursuis ce propos torche-culatif, je t'en prie. Je me torchais après, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, d'un panier, mais oh, le mal plaisant torche-cul, puis d'un chapeau. Et notez que les chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres taffetassés, les autres satinisés. Le meilleur de tous est celui de poil, car il fait très bonne aspersion de la matière fécale. Puis me torcher d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'une barbute, d'une coiffe, d'un leurre. Mais, concluant, je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oisillon bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez sur mon honneur, car vous sentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur du duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, lequel facilement est communiqué aux boyaux culiers et autres intestins jusque à venir à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez que la béatitude des héros et semi-dieux qui sont par les Champs-Élysées, soit en leur asphodèle ou ambroisie au nectar, comme disent ces vieilles ici, elle est, selon mon opinion, en ce qu'il se torche le cul d'un oisillon. Je laisse la parole.
Ça marche. Qu'est-ce que je peux dire après ça, honnêtement. Donc oui, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce printemps des sciences humaines de m'avoir invité. Je reviens toujours avec plaisir dans la belle ville de Lille. J'ai enseigné plusieurs années à l'université de Lille et c'est pour moi un excellent souvenir. Mais Paris est aussi une belle ville. Mais voilà, donc je les remercie de me permettre de revenir ici. Donc moi, je vais vous parler de l'humour. Non rablaisien, enfin assez peu rablaisien au sens où Elsa vient de le mentionner. Donc, humour est un mot prestigieux, mais peu clair. Et chacun sait, chacun pressent que le mot est relié au rire, mais sans savoir exactement de quelle façon. J'en veux, pour exemple, un ouvrage qui est paru récemment, que vous avez peut-être vu, Le dictionnaire amoureux de l'humour, de Jean-Louis Chifflet, qui est un écrivain humoriste, bon, qui mélange allègrement toutes les notions d'humour. Et pour lui, l'humour, c'est simplement le fait de faire rire. Ce qui, à mon avis, est un peu large. Et ma thèse, donc, est que le texte écrit, et en particulier le texte littéraire, permet de mieux comprendre les relations entre l'humour et le rire. D'abord parce que les textes humoristiques, et les textes comiques aussi d'ailleurs, appartiennent à un ensemble très singulier de textes. Ce sont des textes qui provoquent une réaction corporelle visible chez le lecteur. Et réfléchissez, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y a les textes fantastiques, les textes mélodramatiques et les textes pornographiques, mais c'est tout. C'est une catégorie très très particulière donc, de textes littéraires et une catégorie donc très intéressante. Alors, quelle est la situation de ces textes aujourd'hui dans la société? Bon, vous l'avez vu probablement par les conférences précédentes de ce cinquième printemps des sciences humaines et sociales, l'art comique se porte particulièrement bien dans notre société. Hein? Au théâtre, on reprend incessamment des pièces de Georges Feydeau ou de Labiche. Au cinéma, les plus grands succès du cinéma français sont des succès comiques, le dernier en date étant Bienvenue chez les Ch'tis, qui est le grand succès du cinéma français. Les spectacles de comiques et d'amuseurs font salle comble. Et à la radio et à la télévision, nous sommes abreuvés présentations comiques. Hein, la plus connue, sans doute, c'est l'émission Les Grosses Têtes, créée en septembre 1977. Et donc, en France, l'art comique se porte très bien. L'art comique se porte également très bien aux États-Unis. Vous avez ce qu'on appelle aux États-Unis des late night shows. Et donc, chaque soir, l'industrie du divertissement aux États-Unis dépense des millions de dollars pour faire rire les téléspectateurs soir après soir. Alors, on explique cela par le fait, probablement, que la médiatisation ouvre à une représentation comique de la vie. C'est-à-dire qu'elle elle réduit les personnes qui se produisent régulièrement sur les ondes ou à l'écran, les people, comme on dit maintenant. Elle les réduit à quelques traits stéréotypés que l'on va ridiculiser. Prenez l'exemple des guignols de l'info sur Canal+, c'est exactement cela. Et sur cette planète du rire, donc, on attend du comique qu'il distrait au sens de détacher et divertir, c'est-à-dire qu'ils nous mettent en garde contre les excès de la marginalité ou du conservatisme. On pourrait rejoindre là l'une des thèses de Bergson. Parallèlement à cela, les travaux sur le rire, sur le comique et l'humour au XXe siècle, se sont développés d'une manière remarquable. Le XXe siècle est probablement le siècle qui a rendu au rire, au comique et à l'humour, son importance dans tous les arts et dans la société. Donc, du rire d'Henri Bergson, on parlait Alastair Duncan, jusqu'à des recherches récentes, celles de Robert Escarpite dans les années 60, Dominique Noguès, Olivier Mongin, ou récemment un ouvrage publié par Anne Chamaillou et Alastair Duncan sur le rire européen. Et donc, les recherches désormais sur le rire et sur l'humour sont très importantes, orientées soit vers des études sur la cognition et la linguistique, soit vers des études plus philosophiques et psychologiques. Évidemment, cela a attiré des diagnostics de sociologues sur cette promotion contemporaine ou comique. Alors, ces diagnostics oscillent entre, d'un côté, une victoire du rire démocratique, c'est la thèse du sociologue Paul Lyonnais, et de l'autre, l'engloutissement du rire authentique par la prolifération banale et la dissolution dans le fun généralisé de notre société humoristique. Je ne tranche pas dans ce débat, mais dans ces débats, en tout cas, l'humour apparaît comme un objet social valorisé. Regardez, on peut prendre plusieurs exemples de cela. En général, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tous les reproches que vous voulez à une personne, mais si vous lui dites qu'elle n'a pas le sens de l'humour, là, elle va se fâcher. Et regardez également les petites annonces sur les sites de rencontres ou dans les journaux. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce que les gens cherchent chez un partenaire ? Bon, évidemment, beaucoup de qualités, la beauté, la gentillesse, la générosité, etc. Mais la personne doit avoir le sens de l'humour. Sans ça. Donc, l'humour est véritablement une valeur, peut-être la dernière valeur, finalement, de notre société démocratique. Et donc, la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est quel est cet humour ? En quoi est-il lié à la littérature ? Et comment le reconnaître ? Vaste programme, me direz-vous. Je vais être très, très...
Après 3 heures, petite pause.
Après 6 heures. Donc, ça suppose une triple tâche, mais qui va aller vite. Donc, affronter d'abord une série de clichés sur l'humour. Ensuite, dégager certains liens entre le rire et le texte. La question, c'est comment et pourquoi un texte peut-il nous faire rire ? Et ce n'est même pas une question si facile. Et enfin, je voudrais m'intéresser à quelques formes, déroutantes évidemment, de l'humour. Alors d'abord, les clichés. Donc parler de l'humour, ça suppose d'affronter certains clichés. Le premier de ces clichés est résumé par une formule de Pierre Daninos, un humoriste français des années 50 et 60, un peu oublié aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant. Il disait, et sa formule était la suivante, « L'humour, calvaire des définisseurs ». Il serait en effet impossible de réduire théoriquement ce qui incarne un je ne sais quoi de l'esprit sans le détruire du même coup. Et un grand écrivain américain spécialiste de l'humour, Mark Twain, prétendait ainsi qu'analyser l'humour, c'est comme disséquer une grenouille. Du temps, on disséquait les grenouilles. Personne n'aime vraiment ça. Et en général, la grenouille finit par en mourir. En outre, celui qui cherche à expliquer l'humour va être accusé de n'en pas avoir. En effet, l'humour se meut sur un plan où, pourrait-on dire, la raison rit d'elle-même. Et la batterie de notions sévères, de notions sérieuses à laquelle on est contraint de recourir pour l'étudier, va transformer l'humour en sujet ennuyeux, ce qui est un paradoxe. Mais les gens sont généralement déçus de constater que l'analyse de l'humour est austère. Vous voilà prévenu, en tout cas. Et quand je fais un cours sur l'humour, je préviens également mes étudiants au début. Non, je ne vais pas passer mon temps à vous raconter des histoires drôles. Ça va plutôt être ennuyeux. Mais après tout, pour quelle raison l'analyse de l'humour devrait-elle être humoristique ? Pour emprunter une comparaison, on ne demande pas à un traité sur la sexualité de nous exciter. On lui demande de nous expliquer les processus sexuels. Pourquoi en irait-il autrement pour l'humour ? Voilà donc un premier cliché. Un deuxième cliché concerne les liens de l'humour au rire. Comment donc situer l'humour par rapport à ce phénomène humain complexe qui est l'objet du printemps des sciences humaines et sociales? Alors on peut se reporter à un principe général qui a été résumé par un écrivain allemand de la fin du 19e siècle, Otto Julius Bierbaum. Je cite, « L'humour, c'est quand on rit quand même. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. » Mais précisément, cela suggère qu'une étude un peu poussée appelle la confrontation de l'humour à l'histoire immense du rire. L'humour, ça sera en quelque sorte une façon de rire empêchée, une façon de rire retenue. Et ça suppose donc qu'on distingue l'humour du comique. Je vais y revenir. Et un dernier lieu commun s'attache au caractère protéiforme de l'humour. L'humour ne se cantonne ni à un thème particulier, ni à une forme, ni à un genre littéraire. Il y a beaucoup de formules qui tentent d'assigner un contenu à l'humour du type l'humour est la politesse du désespoir, ou l'humour est, c'est une citation de Milan Kundera, le plaisir étrange issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. Bon. Mais le vague de ces énoncés, qui sont par ailleurs assez justes, indique qu'il est impossible d'assigner à l'humour un contenu précis. Tous les contenus peuvent être humoristiques. Et l'humour peut concerner toutes les catégories, donc tous les personnages. Il peut concerner les fonctionnaires. Prenez l'exemple de Messieurs les ronds de cuir, de Georges Courteline, ou plus récemment un ouvrage qui a fait scandale sur la fonction publique territoriale de Zoé Shepard, qui s'intitulait « Absolument débordé », qui était une satire, enfin un témoignage satirique de sa vie de fonctionnaire territorial. L'humour peut concerner les touristes. Prenez l'exemple du fameux classique de l'humour de la fin du 19e siècle de Jerome K. Jerome, « Trois hommes dans un bateau »,« Three men in a boat ». Il peut concerner une classe sociale. Exemple, le classique américain du début du 20e siècle de Sinclair Lewis, qui s'intitulait « Babbitt », qui ridiculisait le petit bourgeois américain. Et l'humour peut également être l'apanage de certaines communautés. On parle couramment de ce fameux humour juif. En somme, l'humour est comme Dieu. Il est partout et nulle part, et l'on risque de s'épuiser et d'épuiser la patience de ses auditeurs à vouloir lui assigner un lieu et une forme. Et en fait, analyser l'humour, c'est chercher à introduire des règles là où l'art des règles lui-même est en cause. Et cela ressemble à une aporie. Alors évidemment, un des classiques pour... une solution classique pour cela... pour remédier à ce problème, c'est de faire l'histoire du mot « humour ». Mais en fait, ça n'est pas très éclairant. « Humour », donc, a été emprunté à la langue française par l'anglais « humor ». En fait, ça vient de « humor » en latin, qui signifie « liquide ». Et c'est relié à la théorie des humeurs d'Hippocrate. Donc, ça avait été emprunté par les Anglais « humor ». Et les Anglais vont nous rendre le mot à la fin du 19e siècle. Ça va désigner « humour ». Mais à ce moment-là, on ne sait plus très bien ce que signifie humour. Et en fait, humour tend de plus en plus à devenir l'équivalent de comique, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui fait rire. C'est la définition la plus large. Je voudrais en proposer une plus étroite. L'humour serait plutôt une disposition intellectuelle qu'on définit en général de manière vague. Et donc, la confrontation de l'humour et du comique devrait permettre de déterminer la spécificité de l'humour. Alors, je ne reviens pas sur toutes les théories sur le comique et l'humour. M. Duncan en a développé certaines. Au XXe siècle, il y a énormément de théories. L'un des théoriciens de l'humour au début du XXe siècle évaluait le nombre de théories sur l'humour et le comique à 88. Et c'était vers 1923. Donc je vous laisse imaginer maintenant. Aujourd'hui, ça se développe davantage vers les études sur la cognition. C'est-à-dire qu'on passe de l'étude philosophique et psychologique à une étude cognitive. Et un spécialiste de la cognition comme Robert Provine, un Américain, peut ironiser d'ailleurs sur la philosophie. Voici ce qu'il dit à propos de la philosophie de l'humour, je cite. « La philosophie est à la science ce que l'alcool est au sexe. Ça stimule l'imagination, ça attise la passion, ça facilite les choses. Mais dès qu'il faut passer à l'acte, ça peut donner un fiasco. » Fin de citation. Que remarque Provine, donc qui lui étudie la cognition de l'humour, que la plupart des travaux philosophiques présupposent l'intentionnalité et la maîtrise consciente du rire. Et en fait, on rit difficilement sur commande. Et parfois, il est très difficile de s'arrêter de rire. Prenez le cas du fou rire. Et en fait, le rire donc nous dépouille de notre vernis de culture et de langage, et il met à mal l'hypothèse voulant que nous soyons des créatures rationnelles, capables de contrôler strictement notre comportement. Et c'est une dimension que les théoriciens passés, concentrés donc sur un rire cultivé, avaient peu prise en compte. En fait, le rire est loin, très loin même, de se résumer à l'expression civilisée de la joie. Et donc l'humour serait plutôt un phénomène ambivalent, une attitude de l'esprit faite de réserve et de nuances, et c'est là un élément qui a été négligé de la critique. Un autre élément qui a été négligé de la critique, c'est le fait que l'humour passe, peut-être pas de préférence, mais passe très facilement par la littérature. Et donc c'est le second point que je voudrais interroger maintenant, humour et littérature. Alors vous savez probablement qu'aujourd'hui on s'interroge sur la littérature et sur ses capacités cognitives depuis qu'on s'interroge notamment sur son éventuelle survie à l'âge numérique. Est-ce que la littérature survivra à cet âge numérique? Et donc il est intéressant de confronter la littérature au domaine du rire en se demandant par exemple, est-ce qu'un texte peut nous faire rire? Vous allez me dire oui, un texte peut nous faire rire. Bien sûr, et parfois même aux éclats. Mais ma thèse est que le texte n'est sûrement pas le médium le plus efficace pour faire rire quelqu'un. Les travaux sur la cognition et les occurrences sociales du rire nous montrent au contraire que la représentation théâtrale, le one-man show ou un groupe d'amis de bonne humeur sont bien plus appropriés pour faire rire une personne que la littérature, que le texte écrit. Il n'est de rire que facile, dit-on. Et donc, en réalité, le texte lu fait moins rire que sourire, à condition de ne pas voir dans le sourire une hilarité à l'énergie affaiblie ou, comme Jules Renard le définissait, le commencement de la grimace. Alors pourquoi le texte est-il un médium peu propice au rire? Eh bien, en général, presque toujours, la littérature relève d'une communication différée. Et en général, le rire jaillit au sein d'un groupe de personnes qui se connaissent ou qui se reconnaissent provisoirement comme les membres d'une communauté. Donc vous voyez, c'est un premier obstacle. Deuxième obstacle, la littérature passe par des œuvres d'une certaine longueur, voire très longue, et on a observé que le rire est généralement provoqué par des événements ou des actes assez brefs et plutôt spontanés. Troisième obstacle, les niveaux de sens des œuvres littéraires ne sont pas nécessairement homogènes, alors que le rire, en général, naît d'une source simple et directe. Bref, vous le voyez, parmi tous les moyens de déclencher le rire, le texte est un moyen particulièrement improbable. Et il est bien plus facile de provoquer l'hilarité chez un interlocuteur que l'on a en face de soi, et par des moyens rudimentaires, voire par des moyens involontaires, que de faire rire un lecteur que l'on ne connaît pas et qui ne connaît pas le contexte dans lequel on a écrit. Bref, d'une certaine manière, la littérature comique et humoristique est un tour de force, et en tout cas, elle est un exercice délicat. C'est une bien étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens, hein, et cette difficulté va être propice donc à la singularité de l'humour. Car qui est le lecteur d'un texte comique ou humoristique ? ou dans quelle situation se trouve-t-il? Il est seul. En général, on lit seul. Il ne partage pas forcément toutes les valeurs du texte parcouru, et il a tout loisir de relire et de revenir sur les significations du texte qu'il lit. Donc, un lecteur peut s'amuser d'un texte, mais d'un rire particulier qui ne va pas l'envahir tout à fait, comme le serait un fou rire ou un rire spontané dans un groupe. Et donc, là où la franche hilarité sera empêchée, va naître un autre rire aux résonances plus complexes. Et moi, j'appellerais cela un sourire très particulier, c'est-à-dire une forme de rire qui se met à distance, un rire qui est capable de réfléchir sur lui-même, de se nuancer et de devenir plus subtil. Et j'y reconnaîtrais la retenue et la complexité humoristique plutôt que le franc comique. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui. Voilà, donc le texte littéraire, me semble-t-il, parce qu'il n'est pas favorable au rire et plus favorable au sourire de l'humour. Maintenant, est-ce qu'il y a des formes littéraires du rire et des formes littéraires de l'humour? Alors, comme je vous le disais au début, la difficulté réside là dans le fait que l'humour est présent dans tous les genres littéraires, qu'il traverse l'ensemble des thématiques, qu'il cultive tous les registres et tous les types de personnages. Il y a tout de même un fait qui demeure dans les textes, c'est l'inscription singulière de l'humoriste dans son texte. Cet éthos humoristique, cette inscription de l'humoriste dans son texte, s'affirme dans la littérature européenne. Alors généralement, on la fait remonter au conte de Canterbury de Chaucer. Cette inscription donc, répond à la construction d'une sensibilité littéraire ambivalente. Donc, l'humoriste est à la fois dans son texte et en dehors de son texte, entre proximité et distance. Cette ambivalence a souvent été relevée par les auteurs. Par exemple, Froissart, qui notait au Moyen-Âge que les Anglais, je cite, « se réjouissent tristement ». Car, comme vous le savez, comme le veut la légende, enfin, pas tout à fait la légende, mais l'humour est né en Angleterre, l'humour européen. Et il n'y a qu'un seul humour au monde, apparemment, c'est l'humour anglais. Donc, Froissart notait déjà que les Anglais se réjouissent tristement, et Fernand Baldensperger, un comparatiste du début du XXe siècle, faisait, lui, de l'humour, je cite, « le baiser que se donnent la joie et la douleur ». Fin de citation. Donc, alors que nous rions lorsque quelque chose crée un désordre puis le résout rapidement et joyeusement, l'humour nous fait sourire par un désaccord, un désordre qu'il ne prétend nullement réparer. Et donc, je crois qu'il faut distinguer là trois formes de rire et de faire rire du texte littéraire qui permettent d'identifier l'humour. Ces trois formes sont, vous les connaissez spontanément et intuitivement, le comique, le satirique et l'humoristique. Donc depuis ses origines, donc disons depuis Aristophane, la comédie a cultivé deux types de rire. On en parlait d'ailleurs avec le misanthrope. Le premier type de rire, c'est une hilarité sans souci de mesure ni vraisemblance. La farce et les mécanismes simples de la farce. Et puis le deuxième type de rire, c'est une représentation enjouée de la réalité, mais qui dissimule une critique des mœurs. De ce point de vue-là, le misanthrope est assez intéressant, même s'il est ambigu. Donc le premier rire privilégie les attaques du physique, des ridicules corporels d'un individu, ce qu'on appelle l'attaque au faciès, et la mécanique du comportement. Le second type de rire, en revanche, pour reprendre les termes d'Horace, grand satiriste de l'Antiquité, donc le deuxième type de rire, je cite, « arrache l'enveloppe brillante dont chacun paradant sous les regards recouvrait sa laideur intérieure ». Fin de citation. Il s'agit du rire satirique. Et au fond, la satire ne plaisante guère. Pour prendre deux exemples, « La résistible ascension d'Arthur Howe » de Bertolt Brecht, où le dictateur de Charlie Chaplin au cinéma sont des satires, mais les éléments plaisants voilent une dénonciation profondément sérieuse. Donc vous avez le comique, le satirique, qui veut donner une leçon, et puis il y a un troisième type de rire qui ne se veut ni simple ni édifiant, et c'est ce que j'appellerais le rire humoristique. Alors, comment définir ces trois catégories, le comique, le satirique et l'humoristique, au plan formel? Eh bien, de manière très simple, par le comique et le satirique, le rieur et son public, il y a toujours un auteur qui rit et puis qui vise un public qui va rire. Donc, par le comique et le satirique, le rieur et son public se séparent de ce dont on rit. Ils se séparent du risible. Exemple pour le comique. Alors, j'ai pris l'exemple du comique misogyne. Je suis désolé, mais dans l'histoire littéraire, c'est quand même assez, un comique assez important. Il est typique de ce rire. Ainsi, Champfort, grand moraliste, je cite. Il y a des femmes qui n'aiment pas faire souffrir plusieurs hommes à la fois et préfèrent s'appliquer à un seul. Ce sont les femmes fidèles. Fin de citation. Ou d'Oscar Wilde. La bigamie consiste à avoir une femme de trop. La monogamie aussi. Bon, comme je ne tiens pas à passer pour misogyne, il suffit de retourner les citations pour que ça soit plus politiquement correct. Il y a des hommes qui n'aiment pas faire souffrir plusieurs femmes à la fois et préfèrent s'appliquer à une seule, ce sont les hommes fidèles, bon, etc. etc. Hein? Mais il faut bien reconnaître que dans l'histoire littéraire, le comique misogyne est quand même plus fréquent. Bon. Il s'agit en fait de dire la vérité en riant. Célèbre exemple littéraire de satire, Châtiment de Victor Hugo, hein, qui rit de Napoléon le Petit, qui dénonce la tyrannie de Napoléon III. Bon, il s'agit d'un rire qui punit Napoléon III, mais qui est un rire, au fond, profondément sérieux. Personne n'en doute. Donc, vous voyez, le comique et le satirique se séparent de l'objet dont on rit, et même pour le satirique, il s'agit de punir cet objet ou cet être. Avec l'humour, en revanche, rieur et lecteur ne se séparent pas du risible, ils s'y incluent dans une sorte de coexistence amusée. Il y a donc une tendance, il y aura une tendance qui a été soulignée par Sigmund Freud, on en a parlé tout à l'heure, dans ses écrits sur l'humour, une tendance à l'autodérision, hein, c'est-à-dire que l'humoriste serait celui qui serait capable de se moquer de lui-même d'une manière détachée, même s'il en souffre. Freud donne un exemple fameux. Un lundi matin, un condamné à mort est conduit à la potence et il s'exclame « Ah, la semaine commence bien !» Donc l'humour, en fait, ne se résigne pas, l'humour défie et implique non seulement le triomphe du « moi », mais il implique également de prendre plaisir dans la défaite même de ce « moi ». Et de ce point de vue-là, Freud le souligne, l'humour aurait quelque chose de sublime. Je ne résiste pas à une citation de Pierre Camille là-dessus. Donc Pierre Camille, humoriste, qui vient de se faire amputer d'une jambe, je cite « Tout va bien, je n'ai plus qu'un pied dans la tombe, et comme je deviens sourd, je n'entendrai pas ma dernière heure sonner. » Fin de citation. Hein, bon. Remarquable exemple d'auto-dépréciation. Et donc, cette veine humoristique, à l'âge contemporain, va être appelée l'humour noir et va être notamment diffusée par André Breton et son anthologie de l'humour noir, mais dans un sens surréaliste assez précis et assez particulier. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Donc, vous voyez, l'humour peut se distinguer du comique et du satirique. Pour ce qui concerne les formes maintenant de l'humour, on ne peut pas vraiment les totaliser parce que l'humour est forcément déroutant. L'humour entraîne toujours dans un texte un système d'alliances hétérodoxes. Prenons l'exemple du mode en littérature, donc une manière de considérer le monde. Il est tentant et commun d'opposer l'humour et le sérieux. Pas du tout. Et un personnage humoristique, par exemple Falstaff, le Falstaff de Shakespeare, lorsqu'il évoque une plaisanterie dite d'un air sérieux, « a jest with a sad brow », montre bien que dans l'humour, il y a à la fois le sérieux et le non-sérieux. Tandis que l'ironie, le comique, la satire ont quelque chose de sérieux à dire, l'humour va imiter le sérieux, mais ne serait jamais complètement sérieux. Et c'est pourquoi, pour Tristan Tzara, le fondateur du mouvement Dada, je cite, « Dada était un microbe vierge qui s'introduit avec l'insistance de l'air dans tous les espaces que la raison n'a pu combler de mots ou de conventions. » Donc l'humour va être un mime du sérieux sans jamais vouloir être sérieux. Et par là, il laissera transparaître ce qui, je pense, est l'effet humoristique par excellence, le sens de la futilité de toute maîtrise. Alors, je vais peut-être terminer par la rhétorique de l'humour. Évidemment, il n'y a pas de rhétorique de l'humour. C'est-à-dire, les critiques se sont posé la question à travers les siècles, mais est-ce qu'on pourrait faire une liste de figures de rhétorique qui seraient liées au rire et à l'humoristique ? Mais la défamiliarisation humoristique ne se laisse pas réduire à une liste de tropes. Je prends un exemple. La tirade de Cyrano de Bergerac, la fameuse Cyrano. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule, etc., etc. On peut le considérer comme une métaphore, une gradation, une hyperbole, ou les trois à la fois. Et en plus, il faudrait ajouter que ça correspond à l'autodérision. Mais vous voyez, le discours humoristique ne se laisse pas réduire ainsi. Il y a une figure quand même qui revient souvent dans les présentations de l'humour et de l'esprit, c'est la syllepse. La syllepse, c'est-à-dire la coexistence de deux sens différents dans un même mot. Et très très souvent, elle est mentionnée dans les travaux sur la rhétorique de l'humour. Donc Freud en donnait plusieurs exemples dans le mot d'esprit et ses relations à l'inconscient. Dominique Noguès citait Boris Vian, je cite, « Je passe le plus clair de mon temps à l'obscurcir. » Vous voyez, il y a coexistence de deux sens. Ou autre syllepse, le mot de Francis Picabia, je cite, « Les hommes couverts de croix me font penser à un cimetière. » Fin de citation. Il y a un recouvrement partiel de deux sens à chaque fois. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait présenter l'humour comme un art de la syllepse généralisée, c'est-à-dire que dans tout texte humoristique, il y aurait à chaque fois le recouvrement de deux sens distincts, de deux discours, de deux genres, de deux modes, l'un comique et l'autre engagé, impliqué. Et voilà pourquoi dans le texte humoristique, le risible n'est jamais séparé de l'humoriste. L'humoriste, c'est mon avis, c'est mon opinion là-dessus, je pense. L'humoriste est quelqu'un qui estime que le monde est entièrement risible, mais qui ne s'exclut pas de ce monde risible, et qui donc pense que l'univers est risible de part en part, et qu'il est rattaché lui-même à cet univers. Donc, vous voyez, je conclue, le texte littéraire apparaît donc comme un médium très peu adapté pour le rire. Et précisément pour cette raison, le texte littéraire apparaît comme la source naturelle de l'humour, c'est-à-dire la source naturelle du sourire. Le texte humoristique, ce serait un texte pour sourire, si l'on veut bien, avec le philosophe Alain, reconnaître dans le sourire la perfection du rire. C'est-à-dire que le rire nous libère, hein, mais par là, il risque de nous couper de la sensibilité. Bergson parle très bien à ce propos d'une anesthésie momentanée du cœur. Donc, le rire risque de nous couper de la sensibilité. Le sourire va aussi loin qu'il peut sur le chemin de la liberté du rire, mais il n'abdique pas pour autant les valeurs d'empathie auxquelles le rieur parfois renonce. Bref, on connaît le mot de Horace Walpole, je cite, Le monde est une comédie pour celui qui pense et une tragédie pour celui qui est sensible. This world is a comedy to those that think and a tragedy to those that feel. L'humoriste, précisément, c'est celui qui réussit à concilier la pensée et la sensibilité. Et donc, selon la formule d'un romancier congolais francophone, l'humour, ce serait un pleurer-rire. Et je crois que dans ces temps de production quasi-industrielle de l'hilarité du comique, nous devrions revenir vers l'humour et vers ses sources littéraires pour essayer d'avoir un rire un peu plus nuancé et un peu plus subtil. Et je vous remercie.
Le troisième petit intermède rabelaisien ne sera pas forcément très subtil, pas très sensible non plus. On est donc plutôt du côté du comique que du côté de l'humour. Je vous en laisse juger. Nous sommes à la fin du roman, en pleine guerre Picrocoline, qui oppose Grand Gousier et Gargantua d'un côté et Picrocole de l'autre. L'ennemi vient de s'attaquer à une abbaye, et vous savez que dans une abbaye, il y a une occupation très importante, primordiale dans la vie quotidienne des moines, c'est récolter les raisins pour boire. Tout va bien jusqu'à ce que l'ennemi s'attaque aux raisins et aux vignes. Et c'est à ce moment-là que va apparaître un des grands personnages de ce roman, qui est Frère Jean. Les ennemis donc se transportèrent en l'abbaye avec horrible tumulte, mais la trouvèrent bien resserrée et fermée. À l'intérieur, les pauvres diables de moines ne savaient auquel de leurs saints se vouer. En l'abbaye était pour lors un moine nommé Frère Jean des Entômeurs, jeune, galant, frisque de haie, bien adextre, hardi, aventureux, délibéré, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé en nez, beau dépêcheur d'heures, beau débrideur de messe, beau décroteur de vigile, pour tout dire sommairement, vrai moine, si on qu'en fut depuis que le monde moinant moina de moinerie. Et celui, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leurs vignes, sortit dehors pour voir ce qu'ils faisaient, et, avisant qu'ils vendangeaient leur clos, auquel était leur boisson de toute l'année fondée, retourne au cœur de l'église où étaient les autres moines, tous étonnés comme fondeurs de cloches, lesquels, voyant chanter « Ininim penene tum inimini cos o nononorum num num » c'est, dit-il, bien chanté. « Vertu Dieu, que ne chantez-vous ? Adieu, panier, vendanges sont faites. Je me donne au diable s'ils ne sont en notre clos, étant bien coupe et cèpe et raisin, qu'il n'y aura par le corps Dieu de 4 années que grappiller dedans. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous cependant, nous autres pauvres diables, Seigneur Dieu, dami potum ? » Lors dit le prieur claustral. Que fera cet ivrogne ici ? Qu'on me le mène en prison. Troubler ainsi le service divin. Mais, dit le moine, le service du vin, faisons tant qu'il ne soit troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire du meilleur. Si fait tout homme de bien, jamais homme noble ne hait le bon vin, c'est un apophtègme monacal. Mais ces réponses que chantez ici ne sont, par Dieu, point de saison. Écoutez, messieurs, vous autres qui aimez le vin, le cordieux, me suivez-moi, car hardiment, que saint Antoine me harde, si cela tâte du pio, qui n'auront secouru la vigne. Ventre Dieu, les biens de l'église, ah non, non, non. Frère Jean met bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix. Il chope rudement sur les ennemis sans crier gare, il les renverse comme des porcs, frappant à tort et à travers à vieil escrime. Aux uns, il écrabouillait la cervelle, aux autres, il rompait bras et jambes. Aux autres, déclochait les spondyles du cou, aux autres, démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents en la gueule, décroulait les omoplates, sfacelait les grèves, dégondait les ischiers, débésillait les fossiles. Si quelqu'un se voulait cacher entre les cèpes, il lui froissait toute l'arête du dos et l'étreignait comme un chien. Si aucun sauvé se voulait en fuyant, haï celui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde. Si quelqu'un gravissait en un arbre, pensant y être en sûreté, haï celui de son bâton empalait par le fondement. Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !»« Il t'est, disait-il, bien force, mais ensemble tu rendras l'âme à tous les diables. » Croyez bien que c'était le plus horrible spectacle qu'on vit onc. Les uns criaient « Sainte Barbe !» Les autres « Saint Georges !» Les autres « Saint Tonitouche !» Les uns se vouaient à Saint Jacques, les autres au Saint Suaire de Chambéry, mais il brûla 3 mois après, si bien qu'on n'en put sauver un seul brin. Les autres se vouaient à Saint Martin de Cande, à Saint Claude de Sinet, aux reliques de Javrezet et 1000 autres petits bons petits saints. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Les autres criaient à haute voix « Confession, confession, confiteor, miserere in manus !» Bref, tous périrent. Je passe le détail. Ainsi, par la prouesse de frère Jean, les ennemis furent déconfits. Tous ceux de l'armée furent déconfits qui étaient entrés dedans le clos jusqu'aux au nombre de 13 622, sans les femmes et petits-enfants, cela s'entend toujours. Merci. Alors, nous avons un petit peu de temps pour la discussion après ce beau parcours d'Aristophane à Houellebecq, qui nous a fait entrer dans un monde complexe de ce qui constitue peut-être la dernière valeur de notre société. La question se pose. La discussion n'a pas besoin d'être sérieuse. La parole est à vous pour toute remarque, question qui vous hante.
Expliquer le rapport qu'il y a entre une société qui va mal, ou tout Dijon, et un métier ou une façon de pouvoir exorciser ce qui va mal par l'humour et par ces humoristes qui sont partout. Je voudrais que vous m'expliquiez s'il y a cause à effet. C'est important, si c'est grave. Plus il y a d'humoristes dans une société, plus la société, elle va mal. Je ne sais pas.
Bon, je ne peux pas les expliquer. Je ne suis pas sociologue. Il faut demander aux sociologues. Et vous aurez deux sociologues, ils vous donneraient deux explications différentes. Ce que je constate, comme vous, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes. Jean-Marc Bourreau a parlé de la France et des États-Unis. Même chose chez nous, énormément d'humoristes, de ces comédiens qui parlent seuls sur scène. C'est un phénomène qui s'est développé énormément ces 20 dernières années. Une petite suggestion, c'est que l'humour passe partout, n'a pas besoin de donner des valeurs, mais peut s'attaquer à toutes les valeurs. Et si on est dans une société où les valeurs sont partagées ou sont peu sûres, l'humoriste a beaucoup de pain sur la planche.
Il y a beaucoup de matière beaucoup de matière pour lui.
Oui.
Oui. Si je peux ajouter à ce que vous venez de dire. D'abord, je ne serais pas d'accord pour les appeler des humoristes. Ce sont des comiques, des amuseurs, mais justement, ce que je viens de dire de l'humour, ça montre que on n'est pas du tout dans le domaine de l'humour. Et de toute façon, à partir du moment où quelqu'un est payé pour faire rire, c'est quelque chose de fondamentalement sérieux. Et quand ce quelqu'un est payé des milliers d'euros pour faire rire des millions de personnes, c'est vraiment de la production industrielle du rire. On n'est plus du tout dans l'humour. Mais alors, plus du tout. Je ne serais pas d'accord là-dessus. Donc, des amuseurs, si vous voulez, ou des comiques. Je pense que c'est lié à ce dont je parlais au début, c'est-à-dire le fait que la médiatisation de la vie ouvre à une représentation comique. C'est-à-dire que les personnes que vous voyez sur les ondes et sur les écrans, que vous entendez sur les ondes et que vous voyez constamment sur les écrans, elles sont réduites à un petit nombre de traits, finalement, extrêmement réduits, et il est très facile de s'emparer de ce petit nombre de traits qui sont stéréotypés et de faire rire à partir de là. Et donc, à partir du moment où vous êtes un people, d'une certaine façon, vous devenez la cible du rire. Et donc, ça entraîne les vocations. Je pense, en troisième lieu, que ce comique est normatif, c'est-à-dire qu'il vise à nous mettre en garde contre une trop grande marginalité ou un trop grand écart par rapport aux normes de notre société. Hein. Il y a une leçon implicite dans ce comique, ne vous écartez pas des sentiers battus, restez dans ces sentiers surtout. Et donc c'est un comique d'assentiment qui est au fond assez peu ragoûtant et assez peu recommandable. Et puis on a parlé tout à l'heure du cas des comiques qui interviennent en politique, alors Coluche, mais on a un exemple encore beaucoup plus proche de nous, Beppe Grillo en Italie. Et regardez ce que ça donne. Un chaos politique incroyable avec quelqu'un qui refuse de s'engager et qui refuse de partager quoi que ce soit avec les autres partis politiques et qui donc plonge le pays du coup dans une sorte de maelstrom dont personne ne sait comment on va en sortir. Donc le recours au comique n'est pas non plus la panacée, hein, ça n'apparaît pas comme une solution. Cela dit, oui, il est vrai que, ça je veux bien le reconnaître, notre classe politique parfois inspire quand même des réactions assez amusées, consternées et amusées à la fois. Mais je ne crois pas que le recours aux comiques en politique soit vraiment une solution pour nous. Est-ce que je...
Pour suivre la question de vous proposerez bien un lien entre comique et terreur. À ça, en voyant les premières images qu'Elsa a approchées au sujet de Rabelais, des images un peu à la Jérôme Bosch. Et quand on voit les images de Jérôme Bosch, on se dit qu'est-ce qu'ils amusaient en ce temps-là, parce que le comique est omniprésent, c'est énorme, et quand on lit sur l'époque, c'est de la terreur. Et le rire est très lié à cette espèce de peur ou cette terreur, et peut-être il y a une piste, et on vit peut-être aujourd'hui des choses qui sont très menaçantes, à l'avenir ou perspective, et il y a une espèce de couple comme ça, du coup, qui se fait tout de suite en marche. D'un côté, la frayeur, et puis le rire, tout ça. Mais c'est à la vue de ces images que vous pensez.
Oui, enfin, moi, je pense que le rire est une forme, oui, de défoulement, ça c'est clair. Et si la télévision et la radio dépensent tellement d'argent pour nous faire rire, c'est que probablement, oui, il y a une raison, ça permet aux gens de se défouler. Simplement, à partir du moment où le rire est produit comme cela de manière industrielle, parce que c'est le cas, c'est une industrie du divertissement, il ne devient plus très intéressant. Ben,
Je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord, en ce sens que, en vous écoutant, je pense que le rire passe de plusieurs côtés, cela vous l'avez bien dit, mais que, par exemple, je prends l'exemple de comique qu'on en voit sur scène, un comique, vous dites que le rire n'est pas intéressant si c'est industrialisé, mais il y a des comiques qui sont des satiristes, des comiques qui pratiquent l'autodérision, il y a un peu de tout. Donc définir humour, satire, comédie, ça me semble très difficile parce que ça passe de l'un à l'autre. Dans chaque exemple d'un texte, presque, on a un peu de tout. Chez Rabelais, on a un peu de tout, et donc la distance est toujours variable, les distances que vous avez établies. Là, je suis d'accord avec vous sur la question de distance. Quelquefois, il y a cette anesthésie momentanée du cœur dont parlait Bergson. Quelquefois, il y a de la sympathie parce que c'est sérieux en même temps. Je pense au XXe siècle, je pense à la tirade de Lucky dans Godot. Là, c'est sérieux, c'est pathétique, c'est tragique, et ça fait rire en même temps. Donc, cette ambiguïté, ambivalence dont vous avez parlé, ajoute un tremblement constant entre humour, satire et comédie. Même chose pour les humoristes qui se produisent sur scène. Ils sont de plusieurs genres. Quelquefois, c'est un rire donc peut-être utile à la société. Quelquefois, c'est un rire donc qu'on peut penser nuisible. Mais le fait que ce soit payé n'est pas pour moi l'essentiel de la chose.
Oui. Simplement, je pense que la personne qui est grassement payée n'a pas d'humour et de distance par rapport à ce qu'elle va faire. L'humour a quelque chose de gratuit, me semble-t-il, qui devrait être respecté. Alors, pour la distinction comique, satire, humour, aucun texte n'est entièrement humoristique, entièrement comique, entièrement satirique, ça va de soi. Ce sont les moments du texte, ils sont tantôt humoristiques, tantôt satiriques, tantôt comiques. Mais ça, je crois qu'on peut les identifier. Alors, je ne voudrais pas jeter l'anathème non plus sur tous les comiques. Hein. Moi, j'appréciais beaucoup, par exemple, Raymond Devos, que je trouvais extraordinaire. Et puis, il y en a d'autres que j'apprécie également. Mais je pense que pour la plupart maintenant, est-ce que c'est un effet de saturation? Nous sommes tellement saturés par les spectacles comiques, satiriques et parfois humoristiques, peut-être qu'il y a une réaction de recul. Il me semble que vraiment, maintenant, il y en a trop et ça tourne là. au maelstrom. Une société, oui, du fun généralisé, où l'humour apparaîtrait, ce qu'on appelle l'humour apparaîtrait comme la dernière valeur à sauver dans ce monde.
Ah, vous voyez ça comme une valeur à sauver?
Les gens voient ça comme une valeur à sauver. Ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'une personne ait le sens de l'humour. Si vous demandez à quelqu'un ses qualités, elle va insister sur le fait qu'elle a le sens de l'humour. Et les gens qui cherchent un partenaire... insiste également sur le fait que celui-ci ou celle-ci doit avoir le sens de l'humour. Donc les gens éprouvent, oui, l'humour, le sens de l'humour, Dieu sait ce qu'ils mettent sous cette expression, comme une valeur vraiment très, très importante.
Moi, j'y vois un pendant, surtout auprès de la jeunesse, 18-25 ans, un pendant avec les vampires, Twilight et tout ça.
Comment
ça? La lecture, les livres.
Oui.
Parce qu'à Lille, nous avons un festival fantastique cet hiver. Et dans ce festival fantastique, il y avait le monde des vampires, du fantastique. Et il y a eu des manifestations dans toutes les médiathèques de la ville. Mmh. Sur les vampires, les livres, l'explication de toutes ces choses. Et sur le renouveau et le regain venu d'Amérique. Et par les livres et par les magazines, les revues, et aussi par qu'est-ce que j'ai dit, livres, films, magazines,
revues,
venus d'Amérique et maintenant en France, en Angleterre, bien sûr, avec toutes ces histoires de vampires, parce qu'il y a une grande attirance des jeunes pour ce monde fantastique.
Oui.
C'est un pendant au rire, c'est complètement. Mais c'est vrai, hein, c'est
aussi. Ah oui, la vogue du thème du vampire, ça, c'est incontestable.
Ça sera pour le printemps prochain, ça.
C'est vrai. Il y a
un mot que je n'ai pas entendu, qui est le mot de transgression dans la Bible. C'est-à-dire aussi toute une référence à un sacré, à quelque chose. Des institutions qui sont un peu incontournables. Et une autre question, c'est est-ce que les manières de rire sont les mêmes d'une société à l'autre, d'un pays à l'autre? Est-ce qu'il y a des choses dont on ne peut pas rire? Est-ce que la manière de rire est différente sur des pays d'une société à l'autre, d'une façon de religion à l'autre?
Bon, pour la question la question du sacré. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Excusez-moi, donc j'ai tout de suite commencé à penser à la deuxième question. Donc.
Transgression.
transgression.
Moi, par exemple, vous vous rappelez, la mort d'un tel, de ses scrémons, etc., qui sont en dehors du champ commun. Il aborde un champ qui est un peu interdit. Il n'y a pas en dehors, donc on a le droit de vivre. Donc, cet aspect-là, puis il y a tout l'aspect des règles. Le théâtre, par exemple, est issu du sacré. Mais à la fois, il a été dérivé, retransformé pour le défaut. Est-ce qu'on n'est pas parti du sacré pour, à partir de là, le déconstruire?
Bon, donc pour la question du sacré, il y a une chose précise à dire que dans la théorie de Bakhtin, c'est que le rire de Rabelais était dirigé, le rire de carnaval était dirigé contre, comme le carnaval même, était dirigé contre l'Église. Et donc, ça, c'était la période de transgression. Et pour Bakhtin, donc, Rabelais, c'est la transgression généralisée. Mais la question qu'on s'est posée à propos de la théorie de Bakhtin, une des questions, c'est que est-ce que le carnaval est une sorte de soupape de sécurité qui laisse passer la transgression, ou est-ce que le rire de Rabelais fait tout tomber, et est-ce qu'il y a une sorte de continuation ou non de cette transgression, est-ce que la transgression est continue ou est-ce que c'est passagère. Donc il y a aussi, par exemple, on pourrait citer le livre très connu de l'italien sur la
juste
le roman de la rose, exactement, merci beaucoup madame. Ou donc la question est de savoir si on va en retrouver la thèse de
Eco.
Oui, ça c'est de Eco. Oui, Umberto Eco. Mais on va pouvoir. Donc, est-ce que l'Église va laisser passer l'humour et laisser entrer l'humour? Et donc, c'est tout ce roman tourne autour de cette question, donc autour de la transgression, de la volonté de l'humour de ne pas laisser passer l'humour, parce que l'humour brise les cadres. Donc la transgression est certainement au centre de beaucoup d'œuvres sur l'humour et a une longue tradition de transgression dans l'humour. Pour votre seconde question, peut-on distinguer entre l'humour dans différents pays? Justement, c'est un peu à cette question-là que nous nous sommes adressés dans le livre que j'ai édité avec Anne Chamaillou. Et nous avons demandé à plusieurs personnes de parler d'humour dans les différents pays, sans peut-être beaucoup de succès, parce qu'on a retrouvé chaque pays, bien sûr, se moque des autres pays. Donc, ce n'est pas les mêmes reproches qu'on fait à chaque fois, mais à chaque fois, c'est la même tendance en Europe de se moquer des autres pays. Alors, on parle beaucoup de l'humour anglais, et quelquefois, c'est sûr qu'il y a dans l'humour anglais une certaine tendance à l'autodérision. Ça c'est sûr, c'est une façon, l'anglais, une façon de se présenter. Il est en même temps arrogant et capable de pratiquer de l'autodérision tout en étant arrogant. Je parle des Anglais, je suis même écossais, alors je ne me sens pas concerné. Mais donc là, pour les Anglais, peut-être un humour un peu différent qui fait vraiment, comme vous avez dit, oui, on peut se moquer de tout, mais sauf, si on dit de quelqu'un qui n'a pas le sens d'humour, c'est la tragédie. Alors ça, c'est très vrai pour les Anglais en tous les cas, que l'humour, c'est leur façon de parler entre eux, d'avoir une tendance à ne pas parler sérieusement ou parler sérieusement avec une sorte de distance. Et ça, c'est très typique de la société britannique en général. C'est pas tout à fait la même chose en Allemagne, mais là, j'entre dans le royaume des clichés.
Pour les Anglais, il y a quand même Benny Hill et Monsieur Beans.
Ah, Mr. Bean.
C'est pas le bourgeois, ça.
Absolument. Ah, non, ah, non, c'est pas
c'est
le
bourgeois. Populaire.
Non, non.
C'est
non,
quand
non.
même un humour populaire, ça.
Non, Benny Hill, c'est plutôt rabelaisien et humour du corps. Ouais. Et Monsieur Bean, c'est de l'humour, je crois. Là. Franchement, non. C'est
de l'humour du corps aussi.
Oui,
il est drôle.
Oui, il est drôle, mais il n'y a pas de. Il n'est pas satirique. On rit avec lui, il n'y a pas de distance, tout le monde peut rire avec lui. Ah, ma femme n'est pas d'accord. Ça, c'est le privilège des épouses.
Oui, je trouvais, oui, la question de la transgression, effectivement. J'ai l'impression que dans notre société, le rire n'est plus du tout transgressif, parce qu'il n'y a plus rien à transgresser. Quand vous écoutez les imitateurs, ce qu'ils font dire aux hommes politiques, mais c'est incroyable. Ils leur font dire tout et n'importe quoi. Et donc, il n'y a plus de transgression. J'ai l'impression que dans notre société, le rire, ça permet de tout dire sans que rien ne bouge. Et donc, en ce sens-là, le rire est plutôt un facteur d'immobilisme que de transgression ou même de changement. En revanche, il y a un rire transgressif, c'est quand l'Occident s'adresse au monde musulman et quand on commence à faire des caricatures de Mahomet ou à parler de Mahomet comme Salman Rushdie l'a fait. À ce moment-là, oui, il y a un rire transgressif. Mais ce rire, il vient de l'extérieur de l'Occident, c'est-à-dire d'un monde musulman qui ne conçoit pas qu'on plaisante sur le prophète. Alors qu'aujourd'hui, en Occident, et si vous considérez la religion chrétienne, il y a beaucoup de comiques qui font des plaisanteries incroyablement agressives sur le christianisme.
J'en profite quand même pour dire que demain, c'est le sujet. Le titre de la séance de demain, c'est l'objet.
Ouais.
On s'est dit, on ne peut pas faire un printemps des sagesses sans faire un sort à la religion, parce qu'on était dans un contexte de caricature, etc. On n'a pas voulu l'aborder sur ce biais d'indique directement, mais on a convoqué les trois monothéistes, si je puis dire, avec les spécialistes. Donc, ceux qui la question intéresse, mais j'ai une question à vous poser, puisque vous êtes professeur de littérature, il se trouve que. Pour la préparation de ce printemps, j'ai été amené à lire Robinson Crusoe de Daniel Defoe. C'était pas pour le printemps, mais c'était un hasard. Et en lisant ce livre, je l'ai lu du coup avec la perspective du rire, et je me suis dit, mais c'était épouvantable. Parce que ce rire, ce livre, au moins sa première partie, est vraiment un contre-exemple parfait. Ce n'est absolument pas drôle, il n'y a ni comique, ni humour, peut-être de la satire sur le monde industriel. Mais comment c'est possible de faire un livre aussi peu humoristique et en réfléchissant un peu, j'ai compris qu'il fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il d'abord est seul, il n'a pas de société, donc les conditions du rire ne sont pas là, et en plus il reconstruit un monde, c'est-à-dire qu'il est dans l'édification des règles, et il ne peut pas se moquer des règles qu'il est en train de construire, ce qui refait un monde. Et je trouve qu'à contrario, enfin, c'est la preuve, ça apporte un élément à ce que vous disiez, c'est-à-dire que le. Il y a des éléments fondamentaux pour le rire, qui sont la société et les règles dont il faut se moquer. Et du coup, ce roman, pour sa première partie, je trouvais, était un contre-exemple parfait. Et du coup, est-ce que Defoe n'a pas pu, quand même, faire un peu mieux, quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez,
Enfin, de toute façon, je n'avais pas l'impression que le propos de Defoe était d'écrire un roman comique. Hein.
C'est... Non, mais après, ça devient un petit peu. Éléments, disons, de comique.
Oui.
Il sait être drôle. Dans Moll Flanders, c'est un passage très drôle.
Oui, mais.
Donc il sait être drôle.
Enfin, on va poser la question aux Britanniques, mais je ne pense pas que le propos de Defoe était à l'origine d'écrire un roman qui fasse rire son lecteur, me semble-t-il. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir raté sa cible.
Non, mais ce n'était pas un reproche, à ce que j'ai compris, c'est, en fait c'est la, la contre-preuve de la chose, qu'on peut écrire un roman sans rire, et justement parce qu'il n'y a pas de... Pas de société, pas de règles, il construit. C'est une thèse intéressante.